gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois micro. D'abord et avant tout comédienne, elle a touché à tous les genres. Théâtre classique, de boulevard ou d'avant-garde, on l'a vu dans plusieurs téléromans célèbres, dont La Pension Velder, bien sûr, de Robert Choquette au début de la télévision d'État. Mais au gré du temps, elle a écrit des textes pour la radio et la télé, tout en étant animatrice, recherchiste et journaliste. Avec joie, accueillons Françoise Fauché. C'est un merveilleux moment que de vous retrouver.
C'est partagé. Merci de me réinviter.
Recherchiste et journaliste, ça peut paraître un peu paradoxal pour une comédienne.
Savez-vous comment c'est arrivé? Yvette Parr était la scripte de Georges Groux, excellent comédien, et qui était devenu réalisateur des téléthéâtres à Radio-Canada. Et voilà que Yvette, à son tour, est appelée au poste de réalisatrice pour les émissions féminines. Et je la connaissais bien pour avoir travaillé avec elle et Georges Groux. Et elle me dit, est-ce que ça vous intéresserait de poser des questions? Alors, je dois dire que je n'ai pas hésité longtemps, parce que je suis curieuse, j'aime bien poser des questions, j'aime bien avoir des réponses. Et puis, j'avais l'impression là qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Je ne parle pas seulement pour ma part à moi, mais on était en 52, l'ouverture de la télévision. La question a dû m'être posée en 53, quelque chose comme ça. Et je sentais très bien que la télévision s'installant, le Québec allait se construire, allait s'ouvrir, il allait se passer quelque chose, et ça m'intéressait infiniment de faire partie de ce grand mouvement-là.
On a particulièrement souvenir de cette présence à Femmes d'aujourd'hui.
Tout à fait.
Émission phare qui a été animée pendant de nombreuses années par Aline Desjardins.
Merveilleusement bien animée, oui.
Et où, il me semble, j'étais beaucoup plus jeune.
Moi aussi.
Mais il me semble que vous aviez, parce qu'il arrivait que les hommes regardent cette émission sans trop s'en vanter.
Mais c'était une émission culturelle, à la fin du compte.
Bien sûr.
Il
n'y
avait pas un livre qui paraissait, il n'y avait pas une exposition qui se faisait, il n'y avait pas un écrivain qui... Il venait à Femmes d'aujourd'hui.
Exact. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il me semble que vos questions étaient parfois incisives, mais que vous aviez une approche toute pédagogique. C'est-à-dire que vous ouvriez la voie à la personne que vous interviewez pour qu'elle nous permette de mieux comprendre certains aspects. Et quand je dis incisif, c'est que vous n'hésitiez pas à aller au fond des choses.
Ben, on est là pour ça. On n'est pas là pour faire du bavardage et puis le doigt en l'air prendre une tasse de thé.
Hein. Mais pourtant, Dieu sait qu'aujourd'hui... On pourrait,
c'est pas pareil.
On pourrait jeter un œil critique sur certains entretiens qui se font.
C'est ça. Il faut pas déranger les gens. Il faut surtout que ce soit pas trop long. Une capsule. Hein. On part du principe que les gens n'ont pas l'attention suffisante pour rester un quart d'heure pour écouter quelqu'un. Ce qui est faux. À Femmes d'aujourd'hui, il m'est arrivé avec de grands écrivains de faire des entrevues qui duraient quasiment toute l'heure.
Vous avez un souvenir particulier d'un entretien merveilleux que vous auriez réalisé dans le cadre de cette émission?
J'ai eu des entretiens merveilleux avec beaucoup de gens. Avec quelqu'un d'ici que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui était Simone Monet-Chartrand, qui était une femme de cœur, une femme de courage, une femme intelligente et qui voulait que les femmes prennent leur place, justement, et qui était la compagne de Michel Chartrand. C'était déjà toute une carrière, ça. Oui. Et combien d'autres le docteur Lamontagne, psychiatre qu'on voit encore et qu'on entend aujourd'hui, je l'ai interviewé autant comme autant. Il n'y a pas un psychiatre, un psychanalyste, un psychologue que je n'ai pas torturé devant les caméras de femmes d'aujourd'hui et les écrivains, mais des choses incroyables. Le philosophe Ricoeur, enfin, il était à milieu de Paul Ricoeur, de ce qu'on pouvait avoir comme préoccupation dans la vie de tous les jours, mais ça ouvrait des portes. Lanza del Vasto, et puis j'ai fait des rencontres incroyables que j'ai pas aimées. Par exemple, Rob Grillet, moi, il était d'une prétention infinie. Ça
une époque, hélas, révolue.
Oui, mais si vous permettez, je vais répéter ce que je dis souvent, ça m'a permis de rencontrer et Marguerite Yourcenar, et Marguerite Duras, et François Nourricier, et combien et Michel Serres. Là, je vous fais du name dropping, je m'excuse. et tous les écrivains d'ici qui...
Mais cela nous permet de comprendre à tout le moins l'importance qu'a eue cette émission, dont on va se rappeler le thème d'ouverture.
Oh, quelle bonne idée! Oh, oui!
Et bien sûr, on entendait aussi la véritable Barbara,
oui,
parce que c'était le thème de la petite cantate interprétée par l'orchestre de Paul Moria, qu'on entendait quotidiennement à l'ouverture de l'émission.
Exactement, et c'est Yvette Parr qui avait choisi ce thème-là. Ta 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 ta. Oh, quand on entendait ça, on avait le cœur qui tapait, ça allait être à nous.
Et c'était du direct.
Ah, direct, direct. Ah oui, absolument.
Donc, ça nécessitait une excellente préparation
oui.
avant
je d'entrer. Je dis direct, direct, mais on a fait des choses aussi...
En extérieur, parfois, oui. pour des reportages.
Je me rappelle de choses sur des peintres, par exemple, Marcella Maltais, ou bien... oh mon Dieu, les noms m'échappent. Mais on allait faire aussi des reportages.
Mais toujours est-il que ça nécessitait quand même beaucoup de travail. De préparation.
Beaucoup.
Comment réussissiez-vous à conjuguer votre travail de chroniqueuse, d'intervieweuse, tout en parallèle maintenant cette carrière de comédienne?
Et rajouter à ça 4 enfants, un mari qui ne savait pas se faire cuire un œuf. Oui, oui. Non, sur ma tombe...
Ça, c'est la portion la plus importante.
Oui, fallait nourrir tout ce monde-là. Oui, oui. Sur ma tombe, je crois qu'on pourra mettre une chose à beaucoup travailler. Non, mais ça m'arrivait de travailler 17 heures par jour. Si bien qu'il y a une question que je pose des fois à mes enfants, est-ce que j'ai été assez présente? Et, comme à toutes les mamans qui se posent la question, je dirais... On fait ce qu'on peut. Le meilleur de nous-mêmes, on le donne. Mais j'ai toujours eu à cœur d'être là pour le petit déjeuner, pour que les enfants, on mange ensemble, les repas ensemble.
Parce que vous avez 4 enfants.
Oui, 4.
Philippe, qui est professeur en sciences politiques, je crois.
Oui, à la retraite.
À la retraite maintenant.
Mon petit aîné qui est à la retraite, imaginez.
Et Sophie Fauché, la comédienne.
Oui.
François Fauché, chroniqueur sportif
à Radio-Canada.
Et Catherine Fauché.
Et Catherine, qui est productrice... Les séries comme séries noires et tout ça, c'est elle qui s'occupe de ça, qui elle travaille très fort.
Vous travailliez fort, mais vous étiez quand même bien entouré.
Ah, toujours bien entouré. Ah oui, 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 absolument. Et aussi responsable de beaucoup de choses, évidemment.
Le théâtre, revenons maintenant au théâtre, parce que c'est quand même un grand pan de votre vie.
Ah oui.
C'est la carrière la plus importante, sans négliger le fait que vous étiez quand même une excellente animatrice. On vous reconnaît d'abord et avant tout comme comédienne.
Oui, d'ailleurs, dans le temps, on m'avait proposé de faire l'animation de Femmes d'aujourd'hui, et j'avais dit non, je suis d'abord, avant tout, une comédienne, et si jamais je dois faire, par exemple, des tournées ou quelque chose comme ça, je ne veux pas dire non à mon métier. Mais quand vous parlez de théâtre, moi, je parle de textes, de personnages. Et ces personnages-là, je les ai défendus aussi bien à la télévision qu'au théâtre.
Vous parlez de télévision, c'est incroyable le nombre de présences que vous avez eues dans les téléromans
oui.
ou dans les séries de toutes sortes.
On peut Mais pas... surtout les téléthéâtres.
Surtout les téléthéâtres.
Parce que pour ne pas vous cacher, je n'ai pas forcément l'accent qu'il faut pour faire partie d'un téléroman québécois.
Mais il faut se rappeler que les téléthéâtres, c'était un événement attendu à l'époque et souvent même dans les journaux,
bien
le
sûr,
lendemain,
bien sûr.
On les commentait, on les critiquait. C'était... Un lieu de rencontre familial, c'était le dimanche soir,
c'est ça.
Le téléthéâtre, et on y jouait de grandes pièces
oui.
qui étaient mises en scène de façon extraordinaire. Paul Blouin y a beaucoup collaboré, votre mari
Paul
également.
Paul Blouin, Jean Fauché, mon Dieu, Carrier, Jean-Paul Fugère.
Oui, pas Jean-Roch.
Ils étaient 4 au téléthéâtre.
Louis-Georges Carrier.
Louis-Georges Carrier, merci.
Voilà.
Merci,
Louis-Georges Carrier. Mais au-delà des téléthéâtres, vous avez joué dans plusieurs séries d'importance. Je pense, il y a eu La Pension Velder.
Oui.
Les Bergers à la télévision dite commerciale,
oui.
qui est maintenant le réseau TVA. Vous avez joué aussi Agnès de Dieu, ça c'est au cinéma.
Oh oui, ça c'est marrant. De
oui.
temps en temps, je reçois un chèque de 28,35 $, par exemple, et c'est les droits de suite de
oui.
Agnès of God, ce qui
oui.
m'a permis de rencontrer Jane Fonda
oui.
et Anne Bancroft.
Vous jouiez le rôle d'Ève Leclerc. C'est exact.
C'était un petit rôle de rien du tout.
Mais en moins.
In English.
Oui, quand même.
Oui, 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 oui. Et c'était mis en scène par Norman Jewison, qui est un grand metteur en scène.
Vous avez fait aussi de la post-synchronisation sur
beaucoup,
plusieurs
j'ai
films.
Adoré ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé notamment prêter ma voix à Judi Dench. Oui, une grande comédienne. J'ai beaucoup aimé faire la synchro. C'est drôle parce que tout d'un coup, vous êtes une super blonde et puis après, vous êtes une vieille grand-mère. Et puis ça varie et c'était passionnant.
Ça a été un beau cadeau de la vie, ça.
Je vous dis, je suis pleine de beaux cadeaux.
Alors, je vous en offre, moi. C'est beau la vie, j'en ferai.
Ah, que c'est bien. Oh là, ça va me faire pleurer.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie.
Cette chanson de Ferrat a été écrite, je crois, pour Isabelle Aubray.
Mais oui, oui, oui.
Qui avait eu un accident de voiture.
Terrible.
Et qui a failli perdre la vie.
Oui.
Et il lui a composé cette chanson. Et d'ailleurs, Isabelle Aubray l'a interprétée de ma façon merveilleuse.
Merveilleuse. Mais comme tout ce qu'elle fait avec énormément de sensibilité, et je suis contente de voir que, malgré les années qui passent, elle est toujours en train de chanter du Ferrat.
De tout ce que vous avez fait, Madame Fauché, télévision, cinéma, post-synchro, journalisme, qu'est-ce que vous gardez de plus précieux dans votre cœur?
Mes enfants.
Bien dit.
Oui, c'est ça qui est le plus précieux. De les voir évoluer, ils sont beaux. Je ne parle pas physiquement, ils sont pas mal non plus, mais ce sont des êtres droits, intelligents, ouverts, curieux, qui travaillent bien, qui travaillent avec passion aussi. J'aime ça. Quand je dis mes enfants, mes petits-enfants, mon arrière-petit-fils, Xavier, que j'appelle mon petit prince.
Nous n'en sommes pas encore à l'heure des bilans. Mais avez-vous l'impression, cependant, d'avoir réussi à transmettre les valeurs qui vous étaient les plus chères?
Je l'espère. Oui, je l'espère. Oui.
Et quelles sont-elles?
L'honnêteté, l'ouverture dans les, l'accueil, certaines générosités, ne pas juger prématurément, se tenir.
Ah tiens.
Se tenir. Je me rappelle avoir fait beaucoup de tournées de théâtre et je me disais, nous sommes les ambassadeurs du théâtre en province. On était toujours accueillis les bras ouverts dans le temps avec Duceppe et compagnie. Et je me disais, oui, nous devons nous tenir. On n'est pas là pour la rigolade, le débrailler et tout ça. On représente quelque chose. Nous sommes des ambassadeurs.
Vous aviez toujours cette conscience aiguë du rôle en tant que personne, et non pas en tant que personnage que vous deviez interpréter, du rôle d'importance que vous jouiez auprès de ces nombreux publics que vous avez visités?
Oui, mais pas seulement dans le domaine du théâtre. En tant qu'être humain, nous devons nous tenir. C'est précieux, c'est sacré, hein, un être humain. On ne fait pas n'importe quoi quand on est un être humain ou avec un être humain. Il y a un respect de l'être humain.
Mais il devait arriver des fois, ou particulièrement dans le métier que vous exerciez, où certains ont peut-être un ego plus développé, où le respect n'est peut-être pas toujours présent à l'égard de l'autre, où on essaie de prendre davantage de place que le voisin. Vous avez réussi à traverser tout cela avec une certaine sérénité?
Oh oui, ben oui, chacun son caractère. Et puis, tant que ça ne devient pas violent, c'est gérable, de toute façon, oui. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et puis, quand celui qui veut trop s'étaler se rend compte que ça ne donne rien, il s'arrête, hein. Je dis, oui, je ne suis pas du genre à me mettre en colère. J'ai toujours pensé que la colère était totalement inutile.
Au plan théâtral, est-ce que vous avez un vif souvenir d'une pièce particulière?
Oh, plein de personnages que j'ai adoré. Oh, les beaux jours de Beckett, Le long voyage dans la nuit de O'Neill, Jeanne d'Arc de Thierry Maulnier que j'ai fait au tout début de la télévision. Mon Dieu, je vais en oublier des très importants, c'est dommage. Mais oh, l'échange de Paul Claudel, bien sûr.
Le rôle de Marthe.
Marthe qui était si beau, qui venait de France et qui n'aimait pas le pain d'ici, comme moi je n'ai pas aimé le pain Weston d'ici quand je suis arrivée. Oui. Et puis des mises en scène. J'ai monté Dialogue des Carmélites, j'ai monté en tout premier lieu Elvire Jouvet 40, mais ça a été une des grandes chances de ma vie que je dois à Pierre Bernard.
Si je vous mentionne, j'aimerais toujours ce temps. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et Dame Fortune, en m'étant offerte, ne saurait jamais calmer ma douleur. Est-ce que ça vous évoque quelque chose?
Le temps des cerises.
Le temps des cerises.
Que chantait si bien ma maman.
Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête, les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps. temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signal et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne mourrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.